Ouais, alors du coup, ça va être assez court en fait. Et c'est plutôt une espèce de petite incursion assez brouillonne en fait dans l'image qui amène à différentes réflexions, mais c'est pas très structuré, je vous préviens. Et après, si vous voulez, ou maintenant, je sais pas dans quel ordre, je peux revenir peut-être sur la. Enfin, peut-être sur la photo et sur sur ce que j'ai dit par rapport à la frustration, qui est important parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi avant d'amener des fanzines, en me disant que le fait de ramener des fanzines, ça allait casser le dispositif de la photo, au sens où ce qui m'intéresse, et du coup, ça me permet aussi de réagir à ce que tu disais sur le contenu des fanzines ou la matérialité des fanzines. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le processus. Du coup, je suis pas expert des fanzines. C'est pas spécialement ma culture. J'ai pas vécu le moment fanzine qui est, en gros, la fin des années 90, quoi. Plutôt une culture squat du milieu transpect des lunes. Voilà, j'arrive un peu après, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, voilà, plutôt ce qui se passe dans cette image-là. Comment ces trucs sont arrivés là, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font là, et qu'est-ce qu'ils font, enfin, c'est quoi leurs effets. Voilà, donc je vais lire cette introduction. Donc l'image que j'ai choisie a été prise le 4 juin 2018. Elle montre une personne assise en tailleur. Dans ses mains, entre ses jambes et autour d'elle, sur le sol, sont disposées des brochures, des fanzines, des journaux militants de différentes époques. Gay West, Sexpol, Maléfice, Mutant at Work, Savon, Gwyn in Malibu, etc. En partie inférieure gauche, le contenant de carton est ouvert. C'est une boîte d'archives. Deux autres se devinent en haut de l'image de part et d'autre. Nous sommes au troisième étage du 52 de la rue d'Aix, dans l'appartement qui abrite l'association Mémoire des Sexualités et surtout, et je mets des guillemets, sa collection. Son fondateur, Christian Deleuze, rassemble depuis plus de 40 ans des archives et de la documentation sur le militantisme LGBT, donc lesbienne, gay, bi, trans, dont il a lui-même été un acteur très impliqué à Marseille et au-delà. De temps à autre, il arrive qu'on lui propose de récupérer des cartons pleins de documents, des morceaux de vie dont on sait qu'il saura prendre soin. Il possède cet espace dédié et est depuis longtemps identifié comme une sorte de gardien de la mémoire. Ceux qui donnent, ce sont par exemple les copains du groupe de libération homosexuelle, le GLH de Marseille, fondé à la fin des années 70. L'un des ménages où cherche à gagner un peu de place les quelques affiches, tracts, revues et autres souvenirs qu'il gardait dans un coin de la cave, il sait qu'il peut les donner à Christian. Parfois, celui-ci va provoquer les contacts, comme lorsqu'il écrit et qu'il rencontre un ancien militant d'Arcadie, groupe et revue homophile fondée par André Vaudry dans les années 50. Ici, la relation qui se construit n'est pas tout à fait la même puisque Christian, 73 ans, est le plus jeune de plus de 20 ans. Donc une transmission de génération en génération. Dans d'autres situations plus tragiques, c'est suite à un décès qu'on fait appel à Mémoire des Sexualités. Le conjoint restant, plus rarement la famille, propose de confier, souvent dans l'urgence, tel ou tel fragment de vie, comme la bibliothèque, des photos. À partir de sa propre mémoire, enrichie et complétée par une pratique méticuleuse de dépouillement des documents qu'il rassemble, Christian constitue au quotidien, en solitaire, une vertigineuse chronologie du militantisme et des mouvements LGBT. L'appartement, pavé de tomates, doit faire une soixantaine de mètres carrés. Christian n'y habite pas. Cet espace est un luxe. Une pièce principale accueille sur de hautes étagères en bois une bonne centaine de boîtes d'archives. Diverses informations apparaissent sur leurs tranches, titres de revues, années, provenance parfois. De temps à autre, de jeunes chercheurs viennent consulter les fonds. Ils sont de Toulouse, de Londres, des États-Unis, du Japon, etc. et travaillent sur des sujets variés. Comme par exemple sur l'histoire des universités d'été des homosexualités qui avaient lieu à l'UMINI à partir de 1978. Christian a participé à leur fondation. C'est d'ailleurs là-bas qu'en 2005 ont été glanées une partie des fanzines visibles sur la photo. Récemment, on m'a dit qu'il n'existait en France que deux endroits où consulter la collection complète de Guépier, qui est la grande revue du mouvement homosexuel des années 80, à la BNF et à Mémoire des sexualités. J'ai rencontré Christian il y a 5 ans. Je travaille sur la patrimonialisation des minorités sexuelles, c'est-à-dire la manière dont ces groupes sociaux, qu'on peut aussi appeler communautés, s'organisent pour préserver les éléments qui constituent pour elles leur patrimoine, leur identité et leur culture, éléments transmis et transformés de génération en génération. En avril dernier, nous avons décidé, avec Christian et avec d'autres, d'organiser un week-end de réflexion et de débat où l'option suivante était posée. Faut-il transférer, sous la forme d'un dépôt ou d'un don, la collection de Christian à une institution publique de conservation ? Ou au contraire, miser sur son maintien au sein de la communauté et une gestion autonome ? La deuxième option, qui a été unanimement choisie, impliquait de se mobiliser pour assurer ce qu'il est possible d'appeler une forme de relève, consistant à poursuivre le travail relativement isolé initié par Christian Deleuze. Nous avons une dette envers lui. S'il n'avait pas patiemment rassemblé toutes ces traces de l'histoire sociale et locale de notre communauté, sans doute aurait-elle disparu aujourd'hui. En effet, combien sont-ils les cartons d'archives partis à la benne, dont le volume fut particulièrement critique au moment de l'épidémie du sida, face au désintérêt plus ou moins total des institutions patrimoniales et scientifiques pour ces sujets minoritaires ? Que penser de l'infléchissement qui semble les saisir aujourd'hui et dont la cause est encore pour moi entourée de mystères ? Et dans cette hypothèse, je ne défends pas forcément, vous l'aurez compris, d'un transfert institutionnel. Quelle place, en tant que communauté, ces institutions ont-elles à nous proposer pour ce qui est de la gestion de notre mémoire ? C'est un peu du coup décousu et glissant. Mais...
On n'a pas la même définition de décousu.
Ok.
On a encore un peu de temps. Il y a de nouveau un temps d'échange après la présentation de vous. S'il y a des personnes qui veulent vous poser des questions directement. Par rapport...
Je peux peut-être ajouter une dernière chose, c'est que je participe aussi à un projet. le lieu Mémoire de sexualité est assez unique en fait. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez compris, du coup, c'est un peu ce que laisse dire la présentation. En France, en tout cas, parce qu'il est relativement accessible et parce que la collection a quand même une importance mémoriale et historique. On va dire. Et on est en fait à Paris, il y a un projet de centre d'archives LGBT depuis le début des années 2000 qui n'aboutit pas. Notamment parce que les rapports avec la mairie de Paris sont assez complexes. Il y a un processus qui est en cours, qui réunit en gros des institutions publiques, notamment les archives nationales, les archives de Paris, le ministère de la Culture et la Ville, d'une part, et d'autre part, des acteurs plutôt associatifs qui se sont réunis au sein d'un collectif qui porte un peu la voix de la communauté. Et je vais juste lire un passage d'une lettre qu'on a reçue la semaine dernière, qui permet aussi de mettre en perspective, en gros, des positions, on va dire, plutôt institutionnelles, en tout cas celle de la mairie de Paris. Donc, c'est une lettre qui a été envoyée au collectif et qui est co-signée par les quatre adjoints de la maire de Paris. Donc, premier adjoint, adjointe à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations et les droits humains, adjoint à la culture et adjoint au patrimoine. Du coup, je cite juste cet extrait, puis après on pourra peut-être discuter de ça ou d'autre chose. En gros, l'extrait, voilà, c'est le suivant. Afin de garantir la réussite d'un centre d'archives et des mémoires LGBTQI+, l'implication des associations est essentielle et doit être un élément central. Cependant, l'engagement des acteurs publics aura vocation à assurer fermement la pérennité et la stabilité de l'ensemble du projet, notamment en matière de conservation et d'accessibilité des fonds pour le public. Ces missions, qui représentent un investissement public financier très important, n'ont pas vocation à être assurées par une structure associative qui pourrait affronter des difficultés de gouvernance et de financement. En outre, pour les mêmes raisons, un projet qui induirait la création d'espaces de conservation délégués à un acteur associatif ne serait pas soutenu par nos partenaires, notamment l'État. Il est utile par ailleurs de rappeler que plusieurs fonds de première importance en lien avec l'histoire des personnes et des mouvements LGBTQI+, sont d'ores et déjà intégrés aux collections des archives nationales ou d'établissements publics de conservation de premier ordre.